Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, coronavirus encore et toujours. Le gouvernement annonce la fermeture des écoles et l'interdiction des événements de plus de 100 personnes à partir de mercredi. 40 patients sont ce mardi à ce jour donc contaminés en Tchéquie par le Covid-19. Et puis la présidente slovaque est en Moravie ce mardi. Suite à la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité d'État ce mardi matin, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a annoncé la fermeture des écoles tchèques, primaires, secondaires et grandes écoles, sauf les maternelles, à partir de ce mercredi 11 mars, de même que l'interdiction des événements de plus de 100 personnes. Cette interdiction concerne tous les spectacles de théâtre, de musique, de cinéma et autres, de même que les événements sportifs, religieux ou privés. Cette décision est valable jusqu'à sa révocation. La nouvelle a entraîné l'annulation du Festival international de cinéma Fébiofest à Prague qui devait se dérouler du 19 au 27 mars et prévoyait la venue entre autres de l'acteur américain Woody Harrelson. Le festival du film sur les droits de l'homme One World qui se déroule encore actuellement n'a pour sa part pas interrompu sa programmation mais limite ses projections aux petites salles en accueillant pas plus de 100 personnes. Le bilan des personnes infectées par le virus Covid-19 est passé à 40 dans la soirée de lundi, ont annoncé les autorités tchèques. Les deux nouveaux cas détectés concernaient des personnes qui étaient liées de près ou de loin à un séjour en Italie. Et parmi les nouveaux patients testés positifs lundi, se trouvait toutefois un chauffeur de taxi pragois pour lequel les autorités sanitaires ne parviennent pas pour l'heure à déterminer l'origine de la contamination, laquelle ne serait pas liée à un séjour dans un pays comme l'Italie. Il s'agirait ainsi de la première contamination dite communautaire et justifierait la fermeture des écoles et l'interdiction donc des événements de plus de 100 personnes à partir de ce mercredi. Les ressortissants tchèques séjournant en Italie peuvent rentrer en Tchéquie en dépit de la quarantaine mise en place dans tout le pays par le gouvernement de Giuseppe Conte, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères tchèque sur son site internet. Le ministère rappelle également que les voyages en Italie sont vivement déconseillés ainsi que l'obligation du ministère de la Santé qui impose aux personnes revenant de ce pays de se faire connaître auprès de leur médecin généraliste qui est ensuite chargé de leur signifier une mise à l'isolement de 15 jours. Le ministère des Affaires étrangères a également invité tous les citoyens tchèques à s'enregistrer sur la base de données Drozd qui permet à la diplomatie tchèque de contacter rapidement tous les ressortissants du pays concerné. La présidente slovaque Zuzana Čaputová est en Moravie, du sud ce mardi à Hodonín. Elle a rendu hommage dans la matinée au premier président tchécoslovaque Tomáš Garrigue Masaryk dont les Tchèques viennent de fêter le 170e anniversaire de la naissance précisément dans cette ville morave. La chef de l'État slovaque avait traditionnellement effectué sa première visite officielle en Tchéquie en juin dernier, quelques temps après son investiture. Elle avait été reçue au château de Prague par son homologue tchèque, Miloš Zeman. Les revenus des ménages ont augmenté selon les derniers chiffres de l'Office tchèque des statistiques. En 2018, un ménage tchèque moyen comptait 195 100 couronnes brutes par personne, soit 12 700 couronnes de plus qu'en 2017. Et soit une augmentation donc de près de 7%. En dépit de cette amélioration, le nombre de personnes menacées par la pauvreté augmente également en parallèle. En 2019, cette frange de la population représentait un dixième des habitants, soit environ 1,06 million de personnes, un chiffre en hausse de plus de 50 000 personnes par rapport à l'année précédente. On termine avec un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Andiela, pluie et grisaille seront au rendez-vous. Les températures oscilleront autour de 13 degrés en moyenne. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme avec Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Vous êtes toujours sur Radio Prague International et vous avez bien raison. Merci à Anna Kubišta. Pour ce bulletin d'information, nous reparlerons du coronavirus et de ses conséquences économiques, notamment dans le domaine touristique à Prague. Ce sera juste après le portrait du nouveau directeur de l'Agence européenne de la défense, le tchèque Jiří Šedivý. Et puis dans la deuxième partie de notre émission, nous irons faire un tour du côté du Festival international du film documentaire One World, avec notamment le réalisateur français Arnaud Bichi. Très bonne écoute. « Ancien ministre de la Défense et ancien représentant de la République tchèque auprès de l'OTAN, Jiří Šedivý a été nommé la semaine dernière nouveau directeur de l'Agence européenne de défense. Spécialiste des questions de sécurité européenne et transatlantique, Jiří Šedivý deviendra, à compter du mois d'avril, le premier Européen de l'Est à prendre les commandes de cette institution, dont la mission, Guillaume Narguet, consiste à soutenir la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne.
Un grand succès pour la diplomatie et la défense tchèque, une excellente nouvelle aussi pour la coopération européenne en matière de défense. C'est en ces termes, sur son compte Twitter, que le ministre des Affaires étrangères, Tomáš Petříček, a annoncé en fin de semaine dernière la nomination de Jiří Šedivý. Son expérience diplomatique et ministérielle et sa profonde connaissance du domaine de la défense et de la sécurité européenne et transatlantique en font le candidat idéal pour diriger l'Agence européenne de défense dans les prochaines années, a pour sa part commenté Josep Borrell, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, lequel assure la présidence d'une agence qui emploie quelques 140 personnes à Bruxelles. Ancien diplomate âgé de 56 ans, Jiří Šedivý, qui succédera à l'Espagnol Jorge Domecq à la tête de cette structure qui chapeaute les projets coopératifs en matière de défense européenne de 26 États membres, à l'exception du Danemark, et les aide à développer les ressources militaires, possède, il est vrai, un curriculum vitae bien fourni. Avant d'avoir rempli depuis 2012 et jusqu'à l'année dernière les fonctions de représentant de la République tchèque auprès de l'OTAN, Jiří Šedivý, diplômé de l'Université Charles à Prague et du département polémologie du King's College de Londres, a notamment dirigé l'Institut des Relations internationales relevant du ministère des Affaires étrangères avant d'enseigner au Centre européen d'études de sécurité George Marshall en Allemagne. Nommé en 2006 ministre de la Défense, puis secrétaire d'État aux Affaires européennes, il est ensuite rapidement devenu secrétaire général adjoint de l'OTAN en charge de la politique de défense. C'est donc, on le voit, un authentique expert qui a été retenu par les représentants des pays membres. Invité de la télévision tchèque lundi, Jiří Šedivý, dont la nomination fera de lui un des Tchèques les plus haut placés dans la hiérarchie de l'Union européenne, s'est exprimé sur les différents sujets qui font l'actualité continentale, à commencer bien entendu par le coronavirus. Le futur nouveau directeur exécutif de l'Agence européenne de défense s'est ainsi dit convaincu que l'Europe n'était pas affaiblie à ses yeux par la propagation de la maladie. On l'écoute.
Je pense que c'est tout un ensemble de choses et un concours de circonstances. Bien sûr, il y a les retombées du coronavirus qui captivent et détournent, dans une certaine mesure, l'attention politique, mais qui influencent aussi toute une série d'activités, de structures de l'UE, comme par exemple celle du Parlement européen. Puis, il y a la nouvelle vague de migration et l'incapacité à se mettre d'accord sur les mesures à prendre ne concourt pas à faire en sorte que l'UE soit capable de protéger plus activement ses intérêts et d'exprimer sa capacité d'action.
Toujours à propos du coronavirus, Jiří Šedivý a confirmé que les médecins militaires tchèques étaient très demandés en Europe. L'armée tchèque dispose en effet d'une unité d'élite spécialisée dans la protection contre les armes de destruction massive, que celles-ci soient biologiques, radiologiques, nucléaires ou encore chimiques. Selon lui, le centre de protection biologique, basé à Tichonin, dans le nord-est du pays, à proximité de la frontière avec la Pologne, un centre qui compte parmi les mieux équipés en Europe et où se trouvait autrefois un laboratoire du pacte de Varsovie sur les agents infectieux est conçu pour faire face à des menaces bien plus graves que celles du coronavirus.
Nous ne sommes jamais dans une situation complètement sûre. Il y aura toujours des menaces qui pèseront sur notre sécurité. Néanmoins, nous sommes très loin d'une situation où l'existence de l'Europe serait menacée. La paix règne en Europe depuis 1945 et les menaces aujourd'hui sont différentes de celles de l'époque. Elles sont de plus en plus souvent de caractère non militaire, elles sont reliées aux nouvelles technologies et se passent dans l'espace cybernétique. Mais je peux dire que nous sommes bien protégés.
Premier représentant d'un pays ayant appartenu à l'ancien bloc soviétique à être nommé aux fonctions de directeur exécutif de l'Agence européenne de défense, Irgy Chedivi, appelé à rester en poste jusqu'en 2025, a reconnu que la Russie, sans avoir besoin pour cela de recourir à la force militaire, continuait de représenter une menace pour la sécurité européenne et plus généralement pour l'ensemble de la démocratie occidentale. Et ce, à la différence à ses yeux, notamment de la Turquie, que Irgy Chedivi présente, je cite, comme un membre dans tous les cas très problématique, mais qui en aucun cas ne devrait être exclu de l'OTAN sous peine de représenter à l'extérieur des structures de l'Alliance un problème bien plus grand. Fin de citation.
Les conséquences économiques de la propagation du coronavirus s'annoncent brutales en Europe et dans le monde. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a affirmé qu'il était, je cite, fondamental que l'économie continue de tourner. Mais les acteurs du domaine touristique notamment voient déjà leurs chiffres chuter dangereusement. C'est le cas de la société DZK, spécialisée dans l'événementiel et l'accueil de touristes étrangers. Nous sommes en ligne avec Olivier Roman, il est le directeur associé de cette société basée à Prague et active dans plusieurs pays d'Europe. Bonjour Olivier Roman, dans quelle mesure votre société est-elle déjà impactée par la crise du coronavirus et les mesures prises contre sa propagation ?
Alors, la société est impactée très fortement depuis donc une dizaine de jours, puisque depuis jeudi dernier, nous recevons à peu près 5 annulations de groupes par jour, ce qui correspond donc à, après une dizaine de jours, à environ 40 d'annulations sur l'ensemble des destinations que l'on couvre, dont Prague et la République tchèque.
Comment est-ce qu'une société comme la vôtre peut tenter de pallier les conséquences négatives de cette crise ?
Alors, dans un premier temps, nous essayons, en partenariat avec les agences événementielles avec qui l'on travaille sur les différents marchés, on essaye de prévoir des reports, en fait, hein, et donc pas prévoir des annulations sèches auprès des clients, mais on discute au cas par cas avec tous nos prestataires, hein, pour essayer de repositionner les événements qui étaient planifiés là entre mars et juin, plutôt sur le deuxième semestre 2020, et ce qui permet en fait de limiter d'une part les frais d'annulation pour les clients et pour nous d'anticiper sur du revenu supplémentaire à partir du deuxième semestre.
Est-ce qu'on doit déjà prendre des dispositions au niveau du personnel, c'est-à-dire clairement licencier des gens?
Déjà envisagé en tout cas chez nous. Nous étions dans un process d'embauche là il y a une dizaine de jours et c'est vrai que cette crise économique, c'est plus que le coronavirus, c'est aussi une vraie crise économique pour nous. Et en effet, c'est une solution que nous sommes déjà en train d'envisager. En tout cas, un licenciement, nous attendons encore la fin du mois de mars pour voir comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, nous considérons tout de suite, d'ores et déjà, de prévoir du chômage technique ou du réduction du temps de travail pour limiter les coûts. Ouais, tout à fait.
Le gouvernement tchèque a annoncé en ce début de semaine, a validé le projet d'un prêt de 600 millions de couronnes tchèques, un prêt à taux zéro pour les entreprises, dans votre cas, directement impactées par cette crise du coronavirus. Est-ce que ce serait quelque chose à envisager pour vous qui pourrait vous aider au moins provisoirement ?
J'ai appris la nouvelle ce matin, en effet, de cette aide du gouvernement. Bien évidemment, on va étudier la question et ça pourrait en effet nous aider là sur les prochaines semaines et prochains mois pour une amélioration de notre cash flow. Oui, tout à fait.
Olivier Roman, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Suite du programme en français de Radio Prague International, on passe à la deuxième partie de cette émission avec des films documentaires et le festival international Jeden Świat, One World en anglais. Plus d'une centaine de films projetés cette semaine à Prague et parmi ces films, le documentaire du réalisateur français Arnaud Bitchy. un documentaire intitulé en anglais « This Train I Ride ». Arno Bicci y suit dans ce film le parcours de trois femmes hobo, ça veut dire vagabondes, et à travers les États-Unis dans leur quête de liberté et d'identité. C'est Tiffen Peel qui a rencontré Arno Bicci lors de son passage à Prague. On écoute ça dans le panorama du jour.
Panorama.
Panorama.
Les hobos, c'est une sous-culture américaine qui existe depuis la Grande Dépression et qui perdure depuis. C'est lié avec la culture américaine. C'est des gens qui voyagent en prenant des trains de marchandises pour traverser les États-Unis de manière frauduleuse. C'est des gens qui vivent à la marge, oui, qui refusent le système. Et il y a toujours eu des gens comme ça depuis la Grande Dépression aux États-Unis. C'est une sous-culture qui a sa propre musique, ses codes, son organisation. Voilà, ça rentre dans l'imaginaire américain, la quête de la liberté, les grands espaces. Donc ça réveille plein de choses, quoi. Et donc j'ai décidé de m'intéresser à ça.
Donc c'est par choix qu'on devient hobo ?
Oui, je pense que c'est réellement un choix, parce que c'est pas une vie qui est facile. Les gens qui font ça ont tous un désir de voyage en eux, qu'ils assouvissent en prenant les trains. Donc oui, ils ont tous ce besoin d'être nomades et de traverser le pays.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de filmer des femmes ?
Parce que je les trouvais beaucoup plus intéressantes que les hommes. Parce que les hommes faisaient pas les trains pour les mêmes raisons qu'elles. Il y avait un truc de testostérone avec les hommes qui était pas, je trouvais un très, très intéressant, qui était souvent de, ils avaient toujours un peu ce même rapport de, assez masculin, de vouloir prouver qu'on est capable de faire ça ou ça, de montrer à quel point on est fort, et de se mettre en danger pour essayer de se sentir un peu vivant. Et les femmes ne font pas les choses de la même manière. Et les filles que j'ai rencontrées, ce qui m'a plu, c'est qu'elles faisaient ça de manière indépendante, toutes seules, quoi. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais pas des femmes qui soient avec un homme, parce que traditionnellement, dans la culture hobo, c'est très masculin. Et s'il y a des femmes, elles sont souvent en couple avec un hobo. Et là, c'était des femmes qui faisaient ça toutes seules. Et ça, j'aimais bien cette force-là. Et du coup, elles le faisaient pas du tout pour les mêmes raisons. Elles le faisaient pas pour se mettre en danger. Elles le faisaient comme un outil de libération, et c'est un peu ça le propos du film, c'est de se libérer en prenant les trains.
Quand on est hobo, on est nomade, donc comment est-ce que vous avez fait pour rentrer en contact avec les femmes que vous avez filmées ?
On n'est pas nomade tout le temps, c'est rare les hobos qui sont 100% du temps nomades pendant une longue période, donc c'est plus des périodes où ils bougent beaucoup, et puis au bout d'un moment c'est quand même assez épuisant comme manière de vivre. Ils s'arrêtent à un endroit, il y a des endroits où ils se retrouvent et où ils connaissent des gens, parce qu'ils ont un réseau d'amis, de connaissances. Donc ils s'arrêtent, ils peuvent s'arrêter aussi pour travailler à un endroit comme journalier et gagner de l'argent pendant quelques mois. Et après, ils repartent sur la route. Voyager en hiver, c'est pas toujours simple. Donc voilà, c'est pas non plus une vie permanente de train constamment pendant des années. J'en ai rencontré par le réseau Punk. Je fais partie, ou du coup, je traîne dans ce réseau-là depuis longtemps. Donc, du coup, c'est des connexions de potes, de potes, de potes, de potes. Et puis d'autres que j'ai rencontrés sur des forums de squat. Enfin, voilà, après, c'est des hasards aussi. Et puis voilà comment on s'est rencontrés.
Dans le film, on voit que vous montez à bord des trains de marchandises avec les femmes hobos que vous filmez. Donc, vous avez adopté ce mode de vie pendant le tournage ?
Au début, j'ai commencé à filmer. On était deux hommes, moi et un preneur de son. Et après, je me suis rendu compte, j'étais un peu poussé par ma productrice, d'y aller tout seul. Mais en tout cas, de toute façon, dès le départ, je savais que j'allais prendre les trains avec elle et que de toute façon, il fallait que ce soit une vie partagée, quoi. Qu'on partage le voyage ensemble et que c'est ça qui rendrait le film, je pense, plus puissant. Et après, du coup, on a pris les trains à deux, quoi, elle et moi, et on a vécu le truc ensemble. Et là, c'est devenu assez puissant et vraiment intéressant, parce que là, on vivait l'aventure ensemble pendant plusieurs semaines sur la route, quoi.
Et vous avez rencontré des difficultés à vous adapter à ce mode de vie ?
Des difficultés, il faut juste accepter la précarité, la faim, les conditions, le peu de sommeil. Mais après, il y a la contrepartie du voyage, de ce qu'on voit quand on est dans les trains. Donc voilà, mais je me suis plié, il fallait.
À un moment dans le film, on voit une des femmes qui vous montre ce qu'elle a dans son sac à dos, ce qu'elle possède, et elle désigne un marqueur comme étant la carte de crédit du hobo. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça c'était une allusion, c'est-à-dire que elle, Christina, à l'époque, elle était vraiment dans un truc très radical, quoi. Et du coup, le marqueur, en fait, c'est pour faire une pancarte en carton où, aux États-Unis, les gens qui font la manche, ils prennent un carton et ils écrivent un message généralement un peu rigolo. Et s'il est rigolo, si c'est un peu original, les gens, ça les amuse et ils donnent de l'argent. Et donc, du coup, c'était sa manière à elle de trouver de l'argent pour vivre. Elle faisait la manche, elle allait fouiller dans les poubelles pour récupérer de la nourriture parce que, du coup... Elle avait vraiment rien du tout, quoi.
Quand on est hobo, on vit aussi à la limite de la loi.
De toute façon, prendre des trains, c'est interdit. Donc, de toute façon, le faire, c'est passible de prison. Beaucoup se retrouvent en prison parce qu'on peut se faire attraper par la police. Ils peuvent y rester longtemps, des fois, ça dépend des endroits, des policiers. Donc oui, on sait prendre des risques. Et prendre des risques quand on prend le train en marche. De tomber, d'avoir un accident, c'est tomber sur des gens dangereux, parce qu'on est tout seul au milieu de nulle part et que si on tombe sur quelqu'un de bizarre, il n'y a personne pour venir vous défendre. Et c'est ce qui participe à la libération de ces filles, quoi. C'est qu'elles sont toutes seules face à elles-mêmes dans un contexte sauvage et d'arriver à affronter ça, on n'est plus la même personne après, quoi. C'est ça le propos.
Quel regard est-ce que la société américaine porte aujourd'hui sur les hobos ?
Ils sont assez bienveillants, d'une manière générale. Il y a un peu les deux, mais dans les milieux populaires, on va dire, les gens sont bienveillants par rapport aux vagabonds, et ça dépend aussi des régions américaines. Je pense qu'il y a des régions qui sont plus dures. Mais je sais que dans l'Ouest américain, par exemple, les gens ont cette mentalité d'aider les gens qui sont sur la route, de prendre les gens en stop, ce qui se fait assez facilement, ou même d'accueillir les gens et de leur donner à manger. Nous, on nous a déjà proposé des fois de donner à manger, et quand on leur dit qu'on prend des trains, ça les fait barrer, et au contraire, ils trouvent ça cool, en fait. Mais après, d'une manière générale, dans la société américaine, je pense que les gens savent pas vraiment qu'il y a encore des gens, des jeunes qui prennent les trains. Les gens connaissent la culture hobo, mais ils pensent que c'est le passé, quoi. Et ils sont toujours un peu étonnés de rencontrer des gens qui leur disent qu'ils le font encore. Voilà. C'était un peu le problème dans ce film, c'est qu'il n'était pas toujours facile pour rencontrer des gens qui prennent des trains, c'est que ils veulent pas qu'on parle d'eux. C'est une culture qui veut rester discrète, quoi. Parce que plus on parle d'eux, on met un focus sur leur pratique et puis du coup, on peut avoir rajouter de la sécurité et empêcher encore un peu plus les gens de prendre des trains. Donc c'est une culture qui veut rester assez discrète. Donc moi, au début, le propos du docu, c'était pas de parler de cette culture-là. Le film parle pas de ça, quoi. Mais de parler de la libération de ces femmes-là. Et qu'elles prennent le train ou autre chose, le train, c'est juste un outil.
Ces femmes que vous avez filmées, elles se considèrent comment par rapport à la société américaine ?
Elles vivent dans la société américaine et elles balancent. Là, maintenant, elles prennent plus de train et elles ont même une vie, normale. Ivy, le personnage qui est plus vieux, c'est peut-être la plus engagée politiquement dans son quotidien. Et les deux autres, Karen et Christina, étaient plus dans une démarche très personnelle par rapport à elles-mêmes pour les trains. Et c'est pas quelque chose qu'elles portent comme un étendard, mais elles gardent ça en elles de toute façon. Et l'autre jour, j'ai eu un message de Karen, justement, qui me disait qu'elle était allée en Argentine et qu'elle revenait justement d'un trip en Argentine, qu'elle avait pas pu prendre des trains, mais qu'elle avait essayé de regarder si elle pouvait, mais qu'elle avait fait du stop à travers l'Argentine en voyageant. Et en même temps, elle continue à bosser comme hôtesse de l'air. Donc voilà, c'est cette espèce de truc qui, et ça reste là, je pense. Elle le garde tout le temps.
Vous êtes toujours en contact avec elle ?
Oui, on s'envoie des messages régulièrement. Je l'étais au courant de toute l'avancée du projet, quoi. Parce que la musique aussi, elle va sortir en vinyle. Donc du coup, je leur ai envoyé l'artwork du vinyle. Elles sont hyper contentes. Non, on reste en contact et j'espère qu'on va arriver à faire une belle projection aux États-Unis avec elle, de les faire venir. Ça, c'est le truc que je vais essayer de faire. Ouais. Ivy, elle me tanne beaucoup pour organiser une projection à San Francisco. Mais on essaye de respecter les premières pour les festivals. Donc voilà. Mais ça va venir. Ça va venir. Et forcément, c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant quand le film est fini. Il y a un espèce d'espace-temps entre le moment où on le finit et le moment où enfin on peut le montrer à tout le monde. Mais oui, elles sont contentes. Ouais.
Le festival de films documentaires One World, c'est le plus grand festival du genre en Europe centrale. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici aujourd'hui pour parler de votre film ?
Ah bah, je suis ravi. J'ai pas eu le temps de vraiment voir le festival, et puis je reste pas longtemps, donc je vais pas avoir le temps. Mais c'est génial. Moi, je suis très 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 content d'être ici. Et j'aurais aimé rester plus longtemps pour voir plus de films. Mais c'est super. Et puis en plus, je crois qu'il y a des projections en dehors de Prague. Non, ça a l'air génial. Non, c'est hyper bien. Je suis très content.
Et l'entretien d'Arnaud Bitchy, le réalisateur français du film This Train I Ride, présenté au festival One World, est à réécouter sur notre site www.radio.cz. Il était interviewé par Tiffen Peel. Et vous pouvez également réécouter sur notre site toutes les archives en français de Radio Prague International. Une seule adresse, donc www.radio.cz/fr. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter en priorité. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt. Ahoy.